Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h06, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport. On attaque la troisième heure de l'émission. Si vous avez raté les deux premières, vous pouvez les retrouver d'ores et déjà en podcast. On vient de passer une heure très très roulante, hein, très vélo. On s'est interrogé sur la punchline de Thibaut Pinot, un petit peu trop dur avec lui-même. Je ne suis pas bon, je suis mauvais, je ne sers à rien à mon équipe. Est-ce que le coureur français n'est pas un petit peu trop exigeant avec lui-même? Vous pouvez réagir, évidemment. Vous appelez Amina si vous voulez venir donner votre avis dans les GG et vous, votre rubrique en fin d'émission. Et puis on était avec Charlotte Bravard, directrice sportive pour l'équipe Saint-Michel Aubert 93, qui prend place dans la caravane du Tour de France Femmes, le premier de l'histoire qui s'élance demain à Paris depuis la Tour Eiffel direction les Champs-Élysées pour 8 jours de course qui seront à suivre sur RMC. À 11h30, les GG sur le terrain direction Eugene, Oregon, aux États-Unis, où l'équipe de France est toujours bredouille dans ses championnats du monde d'athlétisme. Ça la fout un peu mal à 2 ans des Jeux de Paris 2024. On se demandera avec Aurélien Tersin s'il est déjà temps de s'inquiéter pour la nouvelle génération de l'athlète tricolore. Mais pour l'instant, on passe la seconde dans les grandes gueules. On parle de foot féminin et cette fois, mesdames, il va falloir la mettre au fond.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Yannick qui va pouvoir centrer vers le but, la frappe et le but, l'ouverture du score, le deuxième but pour l'équipe de France, la frappe de Gaillon.
L'équipe de France réalise ce qu'il faut pour s'imposer 5 buts à 1 face à l'Italie.
La tête et le but de Khadija Toudjali, l'égalisation de la Belgique. Et le but de Vic Mbok, piqué au vide, on vous l'a dit, c'est terminé. L'équipe de France s'est imposée face à la Belgique. La frappe du gauche et le but.
Un coup à gauche, un coup à droite, la course d'élan.
Égalisation de l'Islande, un but partout.
On va pas voir si Marie Martino connaissait
cette chanson,
morceau de variété de pop music.
Non. Pas du tout.
Eh ben écoute, moi non plus. On demandera à Julie Dérault qui a signé cette magnifique production. Vous avez reconnu évidemment les envolées aux commentaires de notre Jeannot Rességuier. On espère qu'il sera pas en vacances ce soir, Jeannot, ce serait mauvais signe. Parce que France-Pays-Bas, c'est ce soir à 21h, quart de finale de l'Euro féminin de football. Les Bleus face aux tenantes du titre, face aussi à leur histoire, elles qui n'ont jamais dépassé ce stade de la compétition. Face aux Oranges, les Bleus ont l'occasion de prendre leur revanche de 2009, elle qui avait été éliminée par les Bataves en quart de finale cette année-là. Alors, après un engouement suite à la Coupe du Monde organisée en France, on sent un léger ressoufflement autour du foot féminin chez nous, au moins une stagnation, ne serait-ce qu'au niveau de l'intérêt qui porte le public français, notamment, et que l'intérêt qu'on porte à la bande à Corinne Diacre. Alors, une victoire ce soir boosterait-elle leur popularité? Ou au contraire, ont-elles besoin d'un peu plus de soutien pour espérer enfin accéder au dernier carré européen? Sur cette musique qui fout les jetons, cette question, les GG, est-ce que ce sont les résultats qui créent la passion ou au contraire la passion qui permet d'obtenir des résultats? Marie Martino.
C'est une question super ambiguë. En plus, il y a 2 ans pour la prendre, l'angle personnel, les joueuses en tant que telles, le public. Je sais vraiment pas.
Vous répondez, s'il vous plaît, Marie Martino, et puis on développera après. Vous nous expliquerez pourquoi.
Je pense que non, franchement, je sais pas.
Alors non, mais même Denis Charvet n'a jamais fait ça dans cette émission. Hein. Je suis désolé, là, c'est un refus d'obstacle caractérisé qui peut être sanctionné.
Peut-être que la question n'était pas précise.
Oui, c'est une rébellion.
Dans le foot, je crois que les résultats créent l'engouement populaire.
Jean-Christophe Drouet n'aurait jamais toléré ça.
J'ai pas donné de réponse.
Oui, alors excusez-moi, je vous écoute, Marie Martino, vous m'avez répondu que
le foot, je crois que les résultats créent l'engouement populaire.
Les résultats qui créent la passion. David Douillet.
S'il s'agit des athlètes, c'est la passion d'abord qui crée le résultat. Ah. Et à l'inverse du public, c'est le résultat qui crée la passion. Voilà, et en particulier dans le foot.
D'accord. Alors moi j'ai noté la passion qui entraîne les résultats. Hein.
Non mais la question qui nous avait été posée, parce qu'on va tout dire à nos auditeurs. Pourquoi Marie et Marion on était un peu déstabilisés, parce qu'on avait je pense compris que on parlait des athlètes et des joueurs et des joueuses Et donc on s'est dit bah oui non c'est la passion qui crée le résultat, faut être passionné pour gagner, mais ça semblait évident. Et en fait tu nous as posé la question vis-à-vis du public et vis-à-vis du peuple. Alors évidemment c'est l'inverse forcément.
Le peuple, effectivement.
Le peuple.
Exactement. Attention, hein, c'est la dernière fois que vous remettez en cause la ligne éditoriale de la rédaction chef de cette émission. Hein, ce sont des décisions collégiales auxquelles je participe certes, mais que je ne suis pas le seul à prendre, donc à assumer. Marion Bartoli.
Exactement. Comme David, totalement pareil. Si on se met du côté des joueurs, c'est bien sûr la passion qui crée les résultats, et du côté du public, c'est complètement l'inverse. Donc, on va développer. Tu sais quoi ? Développons tout de suite.
D'accord. Texto de Jean-Christophe Drouet. Tu vires tout ce petit monde. D'accord. C'est noté. JC, on en reparle. On va quand même terminer l'émission avec vous et on va faire ce.
Il y a le bruit quand on déchire le contrat. T'as pas le bruit ?
Comment dire ?
Ouais. Fais le bruit. Voilà.
Il y en a trois. Il y en a encore deux sur la pile. Avant de vous donner la parole pour ce passionnant débat, hein, malgré tout, je confirme, on est aux confins de la philosophie. Hein. On accueille Anthony Reich, envoyé spécial RMC en Angleterre, sorte de porte de bonheur de nos bleus. Salut Anthony.
Bonjour à tous.
Salut Anthony.
On le disait à l'instant, les Bleus n'ont donc jamais fait mieux que les quarts de finale à l'Euro. Et pourtant, ça paraît difficile à croire. C'est pas une question de potentiel ou de talent.
Non, c'est pas une question de potentiel ni de talent. Effectivement, quand on regarde déjà le classement FIFA, eh bien la France est troisième sur ce classement FIFA, fait partie des meilleures nations mondiales depuis une petite dizaine d'années. Mais voilà, quand une grande compétition internationale arrive, il y a ce fameux plafond de verre. Alors, quand même, à l'image de Wendy Renard hier, elles sont déterminées, les Bleus, à passer l'obstacle néerlandais. Les joueuses tricolores veulent à tout prix briser enfin ce plafond de verre, puisque ça fait 4 compétitions d'affilée qu'elles bloquent au niveau des quarts de finale, à l'image donc de Wendy Renard.
C'est ensemble qu'on ira changer cette histoire. Et pour ça, comme je l'ai dit, je me répète, mais il va falloir fournir énormément d'efforts. Être concentré de la première à la dernière minute, minimum, parce que là, j'ai dit, c'est une nouvelle compétition qui va commencer.
C'est titulaire en tête comme d'habitude quasiment, mais elle ne veut jamais rien révéler évidemment. Corinne Diacre s'apprête à vivre le match le plus important de son mandat depuis le quart de finale perdu face aux États-Unis lors du Mondial en France en 2019. En juin 2019, elle continue, la sélectionneur, de voir plus loin que ce quart de finale.
On a envie ensemble de bien vivre cette compétition. On regarde vers l'avant. On a connaissance du passé, bien évidemment. On est focalisé uniquement sur cette compétition. On est tourné vers l'avenir et surtout un avenir proche.
Alors la différence peut-être avec les équipes qui ont échoué par le passé, c'est que dans cette équipe de France, des jeunes joueuses ont gagné dans les catégories de jeunes, ont été championnes d'Europe, voire vice ou championnes du monde dans les catégories de jeunes. Donc c'est là la clé peut-être du succès, et surtout l'expérience de joueuses comme Wendy Renard, comme Charlotte Bilbao, qui sont arrivées à maturité dans leur carrière. Et enfin, si les Bleus s'imposent ce soir, elles se qualifieront, elles écriront l'histoire du football féminin français, puisqu'elles se qualifieront pour la première fois de leur histoire pour une demi-finale européenne.
Anthony, tu fais bien de le rappeler, effectivement, gagner dans les catégories de jeunes, on a déjà prouvé notamment avec le rugby français, que ça pouvait servir quand on connaît le chemin dans les grandes compétitions, ça peut servir à l'échelon supérieur. Merci beaucoup, tu restes avec nous Anthony pour ce débat, parce que toi tu suis ces Bleus depuis le début de la compétition et tu as été un témoin privilégié pour RMC, notamment de la patte que Corinne Diacre a su progressivement imposer sur cette équipe. Alors si je vous suis bien, mes grandes gueules, pour vous, c'est effectivement la passion, donc, sous-entendu maintenant que vous avez compris la question, du public, qui permet d'avoir des résultats. Grosso modo, en fait, si...
Non, je crois qu'on a tous dit l'inverse. On a tous dit qu'il faudrait des résultats pour créer l'enthousiasme auprès du public.
D'accord, alors j'ai quand même marqué la passion. D'accord, parce que ça, en fait, c'est l'argument que je vais vous opposer, parce qu'il y a quand même des contre-arguments. Marie, tu commences pourquoi?
Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en France déjà, contrairement à la dernière Coupe du Monde, donc c'est un petit peu moins prégnant pour les gens. Donc voilà, il va falloir qu'on commence à se... Pour ceux qui n'auront pas vu les matchs qui se sont déjà produits, il va falloir qu'ils se lèvent un matin et qu'on leur dise « Ah, t'as vu, la France a gagné hier soir » et qu'ils se sentent un peu couillons de ne pas avoir regardé, de ne pas pouvoir en parler devant le café, au camping ou au boulot, hein, pour se dire « Ah, attends, on est déjà, ça y est, c'est les demi-finales, ça devient plus intéressant, c'est les carrés. » C'est ce qui rend un petit peu le truc excitant et on a envie d'en être quand c'est comme ça avec la France brille. Donc je crois que si tu veux de l'engouement pour ton propre pays, il faut arriver dans les carrés finaux.
Donc vous pensez que en fait ouais, on est un pays de footix, que oui. Effectivement tant qu'on joue pas pour la gagne, ça n'intéresse personne, mais c'est très dévalorisant ce que vous nous dites. En gros, ça pourra jamais marcher sauf si effectivement on joue la gagne, quoi. Donc si on se qualifie en demi-finale, vous pensez qu'il y aura un engouement, mais que grosso modo sinon ça n'intéresse pas assez le public français, Marion.
Mais tu le disais toi-même un petit peu dans ton édito en fait. Comme le disait Marie, effectivement la Coupe du monde dernière, elle était en France, il y a eu un engouement populaire extrêmement important, et puis là, le souffle, il est un petit peu retombé. Donc, si tu veux refaire démarrer la machine et recréer cette dynamique où tout le monde se passionne pour une équipe, bah, effectivement, si elle perd encore une fois, entre guillemets, en quart de finale de l'Euro, bah, t'as du mal à créer cette passion. Donc, pour un sport où il faut encore, et malheureusement, et c'est à mon grand désarroi, prouver, entre guillemets, un peu plus. Je pense pas qu'on aurait cette discussion si on parlait de l'équipe de France masculine. Mais sur l'équipe de France féminine, effectivement, il faut raviver la flamme. Il faut que les gens se réintéressent à cette compétition. Et pour ça, si tu crées un événement où, effectivement, pour la première fois de l'histoire de l'équipe de France, t'arrives à passer le start des quarts de finale et qu'il y a que deux matchs pour aller remporter ce titre, je pense que là, tu vas avoir une réelle dynamique et on va le voir dans les audiences télévisuelles. Mais c'est à mon grand désarroi et je le déplore fortement. Hein. Tu crois pas que je sois vraiment satisfaite de la situation actuelle, mais malheureusement c'est un fait et tu l'as décrit. Il y a eu cet engouement populaire parce que c'était en France, les audiences sur la première chaîne de télé le montraient d'ailleurs, les filles ont cartonné, mais malheureusement après ça, est-ce qu'on a tout suivi, même en club, les filles, très, très sincèrement, je pense qu'on aura du mal à se regarder dans une glace et à dire que oui. Alors il y a certains clubs qui génèrent une grosse affluence dans les stades, on les a vus, on l'a étudié sur la saison, quand il y a le Barça qui joue, etc. Ils sont arrivés à remplir au Camp Nou, mais c'est quand même de manière assez rare. Et pour une équipe nationale, effectivement, pour la France, il faut vraiment arriver à gagner ce match ce soir. Et encore une fois, elles ont la capacité d'aller le faire. Hein. Les Pays-Bas ont été décimés quand même. Elles ont perdu beaucoup de leurs joueuses extrêmement importantes. Donc là, la France a une réelle carte à jouer. Alors après, on peut rentrer plus dans la manière dont jouer ce match, mais sur la partie globale, je suis complètement en raccord avec Marie.
On demandera tout à l'heure à Anthony cette affiche est si déséquilibrée que ça, parce que bon, les Pays-Bas ont souffert des absences liées au Covid, mais elle retrouve quand même des joueurs et des joueuses intéressantes. Vous rendez compte quand même que vous donnez vous apportez de l'eau au moulin de tous les détracteurs
du football féminin. Simon, je pense qu'il faut qu'elle gagne et qu'elle gagne avec la manière. Il faut qu'elle gagne et qu'elle fasse du beau jeu. Sans ça, ça ne prendra pas.
Mais écoute, regarde le match entré en lice face aux Italiennes. On disait attention, méfiance face à cette équipe d'Italie. Il y avait 5-0 à la mi-temps, 5-1. Bon, bon, écoutez, effectivement, j'entends vos arguments. Avant de te donner la parole, David, parce que toi aussi tu développes un petit peu la même idée. Je sais pas si vous avez vu l'équipe féminine des Pays-Bas. Alors certes, elle est tenante du titre. Bon, elle est suivie par ce qu'on appelle la Orange Army, quoi. Hein, c'est-à-dire les supporters avec les drapeaux drapés en orange. Avant le match face au Portugal, ils ont retourné la ville de Wigan. Ils étaient partout, les chants, le défilé dans la rue, le maquillage, la folie qui
ouais, ils
souvent.
Ont que ça, ils avaient
pas
de France.
Mais Simon, la grosse différence entre, là tu cites un exemple très parlant, c'est une énorme différence entre les fédérations étrangères et la Fédération française de football. La Fédération française de football n'a rien organisé pour les supporters sur 7 euros. Tout ce qu'on voit des images de liesse populaire au niveau des Néerlandais, c'est tout est encadré par la fédération néerlandaise. Ce sont eux qui mettent les budgets, ce sont eux qui apportent ce fameux bus qui met l'ambiance avec un DJ sur le toit supérieur. Tout est encadré. Il y a un stand de maquillage, il y a tout est fait pour que les supporters puissent les suivre. Alors évidemment, elles sont championnes d'Europe en titre. Et il y a un vrai engouement pour le football féminin.
Ça crée une dynamique,
Exactement. Et là où en France on a loupé le coche, c'est justement après le Mondial 2018. 2019 où il y a eu une énorme croissance de licenciés. On a fini par atteindre les 200 000 licenciés en France et la Fédé n'a pas continué à enchaîner. Elle n'a pas enchaîné derrière. Il aurait fallu peut-être professionnaliser, homogénéiser le championnat plus rapidement, alors que l'Italie a un championnat professionnel, l'Espagne a un championnat professionnel, ce n'est pas le cas de la France. Et donc, quand la locomotive n'est pas homogène et n'est pas attractive, tu ne peux pas déjà attirer les masses dans les stades.
Tu viens donc, merci Anthony pour ces précisions, parce que tu viens de confirmer ce qui
Anthony.
Était effectivement jusqu'ici une impression, une intuition. Nous, depuis la France, on n'a effectivement pas l'impression qu'il y ait beaucoup de supporters des Bleus avec des perruques en forme de coq sur la tête et mettre des maillots bleu, blanc, rouge, du maquillage, effectivement. Mais justement, c'est très intéressant ce que tu dis, Anthony, parce que si effectivement on crée les conditions, je sais pas, des facilités de voyage, des voyages de groupe, si la fédération s'était impliquée là-dedans,
on peut imaginer
que ça aurait intéressé des gens qui n'auraient pas attendu de me dire attendez, nous, moi, je fais le déplacement que si on est en demi-finale.
Donc, bien sûr, les seuls supporters que j'ai rencontrés ici, sur place, ils se sentent abandonnés. Ils ont tous fait par leurs propres moyens, parce que ce sont des passionnés de football féminin, des passionnés de l'équipe de France. Et puis, il ne faut pas oublier que l'équipe de France n'a pas eu de compétition officielle depuis 2009, c'est-à-dire 3 ans, puisqu'elle n'était pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. C'est une éternité. Ça veut dire que vous n'avez pas d'épisode à part des matchs amicaux et puis des matchs de qualification au Mondial 2023 face à des équipes qui ont l'équivalent pour la plupart d'un niveau régional. La Grèce, le Kazakhstan, on leur met 10-0, 7-0, ça n'a aucun intérêt.
Oui.
Donc il y a aussi ça qui pose problème.
David Douillet, du coup on fait comment pour les intéresser, ces supporters? On va pas les sponsoriser, on va pas les rémunérer. Comment on fait? Tu comprends ça? Tu penses qu'il y a quand même quelque chose à faire en amont pour les mobiliser quand même?
Non mais enfin il y a un truc, on a l'impression de débarquer. Moi je suis entièrement d'accord. La Fédé fait rien pour le foot féminin, c'est très clair. Elle mise tout sur l'équipe de France l'équipe de France masculine, c'est tout, point. Et c'est un fait. Voilà, on le sait. On a vu quand il y a eu les problèmes en interne de l'équipe de France féminine, on a vu le niveau de assourdissant dans lequel s'est muté son président. Il en a rien à faire. C'est pas son problème. Donc à partir du moment où à l'échelle fédérale, bah bien sûr, à l'échelle fédérale, on en est à ce niveau-là. Comment voulez-vous qu'on intéresse les gens? Et puis deuxième caractéristique. Enfin, il y en a deux autres, mais la deuxième, c'est que tant qu'il n'y a pas de résultat, on fait ce qu'on peut. On peut étaler la confiture tant qu'on veut, mais quand on en a pas beaucoup, c'est compliqué. Voilà. Et les médias sont là pour ça. Vous êtes là pour ça. Nous sommes là pour ça.
Oui.
Donc il faut des résultats à l'équipe de France féminine pour qu'elle existe. C'est évident. Puis la troisième chose, c'est le choix dans le calendrier. Quand on fait un championnat au mois de juillet. Au cœur des vacances, faut pas s'étonner non plus qu'il n'y ait pas énormément de...
Ça, c'est à cause du Covid, David.
Non, mais peu importe. Après, il y a des choix qui sont faits. On peut me dire le Covid, le machin, les calendriers, les championnats, etc., etc. On peut m'apporter. Je suis désolé.
Quand on fait ça, du monde de foot masculin,
quand on fait ça au mois de juillet,
c'est toujours en juin-juillet, David.
Oui, mais initialement, avant le Covid, en fait, cet euro, il était programmé mi-juin, mi-juillet. Et il a été décalé en 2022.
Non, mais ça fonctionne.
Et décalé d'un mois.
C'est ce que je suis en train de dire.
Mais d'accord,
il faut recaler ça.
Si c'était au printemps, David, on dirait que les supporters peuvent pas se déplacer parce qu'ils bossent et qu'ils peuvent pas. Tu vois, c'est.
Mais je te parle pas des supporters. Moi, je parle du grand public. Je parle pas de ceux qui vont dans les stades. Je parle de ceux qui vont s'intéresser dans les médias, devant la grande masse qui doivent s'intéresser, se passionner pour le foot féminin.
Mais tu vois,
je parle de ça, moi.
On a quand même longtemps jeté la pierre sur les médias et moi, la première à dire non, mais moi, je te le dis, si on diffuse pas le sport féminin à la télé, forcément on crée pas l'engouement et tout, et là on peut pas nier le fait qu'il y a grosse diffusion, TF1 joue le jeu, c'est super, donc on se rend compte que c'est pas suffisant. Et donc je crois, sinon, pour répondre à ta question, il faut un des résultats et deux, absolument, effectivement, que la fédération française suive le mouvement, soit un moteur et on voit là-dessus quoi.
Et le championnat français aussi, comme le championnat français n'est pas professionnel, tu vois, déjà de base tu crées un décalage.
C'est vrai.
Et puis toutes les tensions ont fait beaucoup de mal aussi. Non, il n'y a pas de ligue féminine parce que Noël Le Graët, pour l'instant, se bat pour garder au sein du giron fédéral cette D1.
Mais c'est une connerie, la preuve.
Oui, ouais. Oui, mais si tu veux, l'avance qu'on avait sur les autres championnats. L'avance qu'on avait sur les autres championnats il y a une dizaine d'années à peu près, quand j'ai commencé à suivre cette équipe de France féminine, on l'a perdue. Alors, oui, pour l'instant, ça ne se concrétise pas dans les résultats des clubs, puisque l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sont des machines quand même au niveau européen, et l'Olympique Lyonnais a gagné quand même encore une fois la Ligue des Champions cette saison. Mais à un moment donné, et on le voit depuis deux saisons, on se fait rattraper. On se fait rattraper et ça va basculer. Le Barça a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Donc c'est pas anodin. Ça veut dire que dans 2-3 ans, peut-être que ça sera le Barça, ça sera peut-être Manchester City. Les Anglais mettent énormément de moyens sur les clubs anglais et nous, on est à la traîne.
Merci beaucoup en tout cas Anthony, c'est vrai que peut-être qu'une victoire ce soir des Bleus en quart de finale face aux Pays-Bas boosterait un petit peu la passion du grand public. David Douillet faisait bien de souligner que bah, y a quand même une différence entre le grand public et les supporters. Les chaînes privées gratuites jouent le jeu, ma chère Marie. RMC également, parce bien que sûr. Dispositif 5 étoiles non, sur RMC depuis le début de l'Euro. Jeannot Rességuet, Anthony Reich au commentaire de cette rencontre que vous suivrez en direct en intégralité comme toutes les rencontres des Bleus lors de ce championnat d'Europe. France-Pays-Bas, 21h sur RMC. Merci beaucoup Anthony. Et évidemment, à tout à l'heure sur l'antenne de RMC. Vous restez bien avec nous. Les grandes gueules du sport reviennent dans un instant pour entamer leur dernière ligne droite. On ira sur le terrain des championnats du monde d'athlétisme à Eugene en Oregon, où pour l'instant c'est pas la folie pour notre équipe de France. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h32, c'est le retour des grandes gueules du sport sur RMC. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, Marion Bartoli, David Douillet. À midi, ce sera l'heure des paris RMC autour de la bande des flambeurs, hein, du vélo, du foot féminin, du tennis. On essaiera de vous faire gagner un petit peu d'argent. Et dans un quart d'heure, c'est à vous d'entrer en piste. Vous avez entendu au cours de l'émission quelque chose qui vous a fait recracher le café, lâcher le panier du marché. Venez vous bastonner avec la GG qui vous a agacé, les grandes gueules, et vous, les GG, et vous, ce lien entre les auditeurs et nos consultants, c'est l'une des promesses de RMC, vous le savez. Mais pour l'instant, il est temps de revenir à l'essence de notre métier. Les grandes gueules vont sur le terrain.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Et le terrain aujourd'hui, c'est la piste du mythique Hayward Field de Eugene, qui accueille jusqu'à demain les championnats du monde d'athlétisme et où, pour l'instant, on ne s'étouffe pas avec les médailles tricolores. Zéro. Comme ça, on est tranquille. Du coup, la France a peur. À 2 ans des Jeux de Paris 2024, on n'est pas invité au sommet des épreuves de la discipline olympique reine. Alors qu'on est en plein passage de témoins entre deux générations, on s'impatiente un peu, on veut voir du bleu, au moins à la lutte pour les podiums. Aurélien Tiersin, est-ce que cette génération est si loin du meilleur niveau mondial ?
La plus grosse déception, c'est évidemment Sacha Zoya, le phénomène du 110 mètres haies, n'a jamais assumé son statut de rockstar de la discipline. Éliminé en demi-finale, course où il a touché plusieurs haies, le champion du monde junior rattrapé par la pression et par un corps en délicatesse.
Je pense que c'était plus dans ma tête ou le stress, pas de stress de la compétition, mais le stress en train de dire ouais, « je suis pas à mon niveau top, comment est-ce que je vais faire ?» Au lieu, la prochaine fois, j'ai besoin de focusser. Mind over body, le corps, même si le corps va pas bien, tu gères la course et tu fais bien. Ouais, c'est l'expérience. Toute l'expérience, c'est positif. Hein. Toutes les leçons, c'est positif. Même si c'était pas vraiment la compétition de mes rêves, on va dire. Et mon corps, il a pas suivi. C'est ça qui est un peu plus chiant.
Zoya, pas encore tout à fait au niveau. Margot Chevrier, 0 pointé en finale de la perche. Yann Chaussinant, éliminé en qualification du marteau. Benjamin Robert, éliminé en demi-finale du 800 mètres. Ça, c'est la face sombre du bilan, car la lumière brille, pas encore de mille feux, mais elle brille un petit peu pour Wilfried Apio, par exemple, quatrième du 400 mètres haies à un souffle de la médaille, à 4 centièmes du mythique record de France de Stéphane Diagana.
À chaud, on se focalise toujours sur le négatif plus que le positif. Il y a mon coach là-bas, je sais ce qu'il va me dire, et je pense qu'il a déjà pleuré. Je pense qu'on va pleurer là, à deux là, parce que c'est quand même dur comme place. Je suis quand même fier de moi d'avoir fait ce chrono-là, c'est quand même... Je suis sur les bases de Stéphane Diagana qui est quand même un exemple pour moi et un exemple pour l'athlétisme français. Donc ça peut faire que plaisir.
Et pour le directeur de l'équipe de France, Romain Barras, on ne panique pas non plus. Il n'avait indiqué aucun objectif de médaille. Mais ces mondiaux, c'était d'abord une marche à franchir.
Alors ça a toujours été l'ambition de la fédération et l'ambition de cette sélection de fixer des modalités de sélection qui nous amenaient à des demi-finalistes potentiels, donc un top 16 potentiel dans son épreuve.
Et ce critère a été rempli par quasiment 100% des jeunes. Le directeur technique national Patrick Ranvier, en charge de relancer la Fédération française d'athlétisme depuis le mois de janvier, valide le processus.
Effectivement, on peut considérer qu'on a un petit trou générationnel entre ceux qui sont plutôt sur une phase fin de carrière, optimisation des dernières années de performance, et on croit beaucoup en leur capacité à la fois à performer et à transmettre. Et puis on voit des très jeunes qui émergent et qui commencent à performer. Je suis d'un naturel optimiste et ambitieux. Et je pense que nos athlètes et l'équipe, la dynamique qu'a lancée Romain avec toute cette équipe autour de la performance, me semble de nature à vivre un bel été.
Car l'été est loin d'être terminé. Dans un mois, tous ces bleus iront à Munich pour les championnats d'Europe, comme Jimmy Gressier, 11e des mondiaux sur 10 000 mètres.
Prendre les championnats du monde comme un élan pour les championnats d'Europe à Munich, qui reste pour moi le plus important cette année, et là où vraiment je veux être au top de ma saison.
En Allemagne, les Français devront enchaîner les médailles et valider cette montée en puissance, car les Gressier, Zoya, Appio, Chevrier et bien d'autres feront cette fois partie des favoris.
Il y en a un, en tout cas, qui est au niveau mondial. Au plus haut niveau mondial, c'est Aurélien Tirsin, notre envoyé spécial lors de ces championnats du monde d'athlé. Vous retrouvez tous les meilleurs moments en direct chaque nuit sur RMC de ces mondiaux qui se terminent donc demain. Aurélien le rappelait hein, dans son reportage, les championnats d'Europe, évidemment, hein, dans trois semaines. Les GG, je vous pose cette question de but en blanc. On est à 2 ans des Jeux de Paris 2024. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que cette génération qu'on va estampiller Paris 2024, elle est au niveau, tout simplement, Marie Martineau?
Si on lui donnait les moyens, elle le serait certainement. Voilà, je n'ai pas du tout envie de jeter l'opprobre sur les athlètes. Je m'en prends directement à ceux qui les encadrent.
Donc elle n'est pas au niveau, mais faute de moyens. Mmh. Marion Bartoli.
À peu près pareil. Après, dans le sujet, j'ai trouvé vraiment le nouveau DTN plus que mettant sous le tapis tout ce qui s'est passé auparavant en interne et sur le plan de la politique à la Fédé. Donc moi, beaucoup plus aigri contre la Fédé que contre les athlètes.
D'accord, j'ai cru qu'on avait un petit peu copié sur sa copine. J'allais sanctionner. David Douillet.
Moi, j'ai toujours en tête le parcours qu'avait fait Gany et Alouz pour remonter l'athlétisme français qui était dans le même état qu'aujourd'hui. Et il y a une agence nationale du sport qui est là pour ça, hein, pour dynamiser et encadrer notamment les fédérations qui marquent le pas. Et c'est peu dire quant à la fédération d'athlétisme. Que fait-on? Voilà, on n'entend personne. C'est aussi assourdissant de silence. Qu'est-ce qui se passe? On prend pas de décision. Personne n'est remis en question. Je veux dire, quand un athlète, il est pas. Quand un athlète a des contre-performances, en général, bah, il n'est pas sélectionné, quoi. Et j'aimerais qu'on applique ces choses-là aussi à la tête des fédérations et de ceux qui les encadrent, parce que là, l'autoprotection, l'entre-soi, il y en a ras-le-bol. Le haut niveau, c'est pas de l'entre-soi. Le haut niveau, c'est la remise en question et pour tout le monde. Voilà ce que j'ai à dire.
Marie, pour développer, Marie et Marion.
On en parlait la semaine dernière. Déjà, moi, je reste sur ce problème d'avoir laissé 25 sièges vacants. Je crois que ça n'aurait pas, certainement pas changé les résultats probants ou pas là sur les podiums ou le fameux top 16 dont il serait content de se satisfaire.
Tu parles des critères de sélection, effectivement, et des minima imposés par la Fédération française d'athlétisme qui étaient plus sévères que les minima de la Fédération internationale.
C'est ça qui ont conduit au fait qu'on a laissé 25 places vides au lieu d'emmener des jeunes pour que à 2 ans des Jeux, justement, ils se frottent aux autres, parce que l'athlétisme, c'est un sport où tu te frottes aux autres, où tu t'alignes au départ avec les autres, et si tu n'y es jamais confronté, bah, tu vas te pointer aux Jeux Olympiques, c'est super, là tu seras en France, donc il y aura plus de places que pour d'autres pays, mais tu ne te seras jamais vraiment frotté à ce qu'est l'élite internationale, donc c'est voué à l'échec. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas compris cette politique de la pyramide. Il faut une base très large pour arriver à sortir des gens à l'élite. Donc non, je suis d'accord avec Marion d'entendre ce que dit le DTN, je ne comprends pas. Et les athlètes que je côtoie qui font de l'athlétisme à très haut niveau ne le comprennent pas non plus, hein. C'est pas un truc que j'invente, hein. Je discute avec eux et alors tout le monde n'ose rien dire parce que ben justement c'est une fédération puissante où il vaut mieux pas trop l'ouvrir, mais voilà c'est le résultat.
Marion Bartoli, rapidement.
Totalement. Il y a une enquête très intéressante réalisée par un journaliste au sein de la fédération, justement, qui décrit vraiment une atmosphère de défiance avec des salariés poussés à bout qui quittent le navire Il y a eu quand même deux DTN qui sont partis et le directeur de la haute performance qui a démissionné juste après les JO, Florian Rousseau, qui a quitté après seulement un an et demi à son poste. Il y a quand même quasiment un zéro pointé déjà aux JO. Ils ont été sauvés par la médaille d'argent de Kevin Mayer, mais ça fait plus de 25 ans qu'on n'a pas eu une médaille d'or. C'est seulement Renaud Lavinelli qui a sauvé vraiment cette médaille d'or en 2012, mais à part ça, les dernières médailles d'or, ça remonte à Marie-Josée Perret et à Jean Galfion. Donc il y a, c'est plus qu'un trou générationnel, voilà, ça fait 25 ans, c'est pas un trou générationnel, c'est juste que il y a un fonctionnement de base qui n'est plus possible d'avoir. Le DTN, enfin moi je prends encore une fois l'exemple de la Fédération de tennis.
Oui, Marion.
Ah, on a perdu Marion.
On a perdu Marion. Qui voulait faire un parallèle avec la Fédération française de tennis. Bon, il y a quand même quelques motifs de sourire et peut-être de vibrer pour cette fin de mondiaux, parce que oui, Gabriel Tual s'est qualifié pour la finale du 800 mètres. Ce sera la nuit prochaine. Il est Talence. Hein, on salue évidemment tous les habitants du 33-400 Talence en Gironde, évidemment. Renaud Lavillonie, qui est le seul de nos trois perchistes français à s'être qualifié pour la finale. Jean-Marc Monviane au triple saut. Et puis le 4x100 qui a remporté sa demi-finale et qui nous rappelle, alors là c'est souvenir pour les moins jeunes hein, de nos auditeurs, à une époque où le relais français du sprint était le meilleur du monde, donc à suivre évidemment tout ça au Hayward Field de Eugene grâce à Aurélien Tersin sur RMC, vous ne raterez rien des meilleurs moments. On va se quitter quelques instants, on revient pour la dernière ligne droite de ces grandes gueules du sport avec évidemment l'entrée en piste, hein, puisqu'on parle d'athlétisme, vous l'avez, de nos auditeurs. Certains sont un petit peu fâchés contre vous, les GG, on découvrira contre qui dans un instant. C'est à vous la parole, les GG, vous, dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h46, vous êtes bien sur RMC, c'est la toute dernière ligne droite de ces grandes gueules du sport en ce samedi 23 juillet. Vous savez qu'on est le premier relayeur d'une immense journée de sport sur l'antenne de RMC, le contre-la-montre entre la Capelle Marival et Rocamadour. Ce sera à suivre cet après-midi dans l'intégral tour, même si visiblement Vingegaard a déjà course gagnée. Et puis cette journée, elle va nous emmener évidemment au quart de finale. France-Pays-Bas de l'Euro de football féminin, les Bleus de Corinne Diacre qui veulent percer ce plafond de verre face aux tenantes du titre. Match à suivre en direct en intégralité à partir de 21h sur RMC. Et puis auparavant, on fera un détour par le Castellet, les qualifications du Grand Prix de Formule 1.
Oui.
Le Grand Prix de France, évidemment, c'est l'un des événements du week-end. On en parlera évidemment demain dans les grandes gueules. Mais pour l'instant, c'est votre moment, les auditeurs, les GG et vous.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Et on est ravis d'accueillir Patrick dans les grandes gueules du sport. Bonjour Patrick, merci d'avoir composé le 32-16.
Bonjour à vous.
Bonjour Patrick.
Quelle est la GG qui vous a fait sursauter ce matin, sur quel thème et que souhaitez-vous lui répondre?
Il y a Marie notamment, surtout, et un petit peu Marion derrière, et puis même Dave Douillet un petit peu.
Carton plein.
Il
s'extasie devant les performances éblouissantes de Thibaut Pinot sur le Tour de France.
Pas tout à fait ce que j'ai dit.
Mais... on ne doit pas avoir le même Tour de France. C'est comme si moi je me lançais sur un marathon et que je partais comme un coureur de 100 mètres histoire de prendre 2-3 photos et puis après je coule. Voilà. Comme ça. Je pense que même lui s'en est rendu compte. Malheureusement, toujours après, c'est un petit peu. Ça fait quelques années que ça dure et malheureusement, je pense qu'il tire pas les leçons de ses faits et méfaits. Et je parlerai pas des autres non plus. Bon, Romain Bardet. même Gaudu, il est quatrième du Tour de France.
Oh, ouais, non, super, Gaudu, génial. Quatrième,
mais est-ce que vous l'avez vu une seule fois devant, attaquer, faire quelque chose? Rien, toujours à la ramasse, à essayer de se raccrocher au wagon. Donc pour moi, c'est un échec total.
Et oui, mais s'il avait attaqué et qu'il s'était cramé pour prendre un éclat derrière, il pourrait prendre 20 minutes.
Au moins, je sais pas. Mais bon, je vais pas leur jeter la pierre à tous ces cyclistes qui font leur métier du mieux qu'ils peuvent. Je pense que c'est au-delà, les équipes françaises, les managements français qui ont un problème, quoi. Bon, je sais bien que c'est un sport qui a du mal à lever des fonds. C'est pas, même si c'est un sport très populaire en France, malheureusement, il y a pas beaucoup d'investisseurs qui courent après des équipes, quoi. Mais le management, il est, à mon avis, il y a un problème, quoi. Même quand j'ai entendu tout à l'heure une chagrande gueule, Marc Madiot, nous dire qu'au sommet de l'obisque, toute son équipe était en peloton du, était dans le peloton du maillot jaune. Waouh, bravo, mais on s'extasie, quoi. On hurle et youpi.
Bah oui, mais bien sûr.
Godu 4e, Madouas 11 et Pinot 14. On se met à la place de notre ami Marc Madiot. On peut quand même se féliciter.
Mais alors, Patrick, non, mais Patrick, on peut se tutoyer?
Ouais.
Yes. Patrick, toi, quelle équipe te fait vibrer? Quel coureur te fait vibrer? Et
Moi, les coureurs qui me font vibrer, du coup, tu vois, Marie, ouais. Moi, je tutoie. J'ai connu un Julien Lafilippe qui est parti dans une équipe belge et qui, il brille. Tiens, c'est bizarre. Avant, non. Avant, c'était moyen-as, quoi. Et même si on remonte bien avant, il y avait un certain Jalabert qui est parti dans une équipe espagnole, à l'époque, la ONCE, qui a brillé. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui se passe dans le management.
Ah, mais là,
tu es
en train de comparer Jalabert à une époque EPO avec
Là, je sais pas. Là, tu t'aventures dans sur un truc que tu connais pas trop.
Il envoie des plombs, le Patrick.
Il faut pas tout de suite. Non, mais je pense qu'il y a un problème en France.
Il l'a avoué, en plus, je sais très bien ce qu'il a pu dire, j'invente rien, il l'a avoué.
En tout cas, c'était l'avis tranché de Patrick. On remercie d'avoir proposé le 32-16, d'être venu dans les GG et vous.
Non, mais c'est on peut
rétorquer à Patrick. Effectivement, Romain Bardet, il est dans une équipe étrangère, il va finir quand même derrière David Godu. Et Laurent Jalabert n'est jamais monté sur le podium.
Et la Pécanin, qui est quand même certainement la plus grande équipe du monde. Donc,
chacun son avis, et c'est pour ça qu'on aime le débat sur RMC. Tout le monde est libre de venir développer son point de vue.
C'est vrai.
On va accueillir. On va accueillir Marc qui a fait le 32-16. Bonjour Marc, bienvenue dans les grandes gueules.
Bonjour à vous, bonjour Marion, Marie, David.
Bonjour Marc.
Marc, sur quel thème souhaitais-tu réagir, effectivement, puisqu'on se tutoie? Et à qui veux-tu t'adresser?
À toi, par rapport aux trois autres, parce que tu as été très 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 surpris, tu étais très étonné.
Pardon, Marc, c'est théoriquement interdit, ça. Normalement, vous m'appelez les gens au standard, là, tout de suite, on va. Non, je plaisante, Marc. Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a agacé?
Je vais braver l'interdiction, c'est parce que j'écoutais le débat sur l'équipe de France féminine. Je suis d'abord extrêmement d'accord avec les trois. Et ça a été valable pour les hommes aussi, pour les masculins. La France est un pays de foot, mais n'est pas un pays de foot de grands malades qui va, dès le départ, suivre son équipe nationale. Il va falloir des titres ou être dans les derniers carrés. Rappelez-vous la grande équipe de Platini. On a commencé à les suivre quand il y a eu le match contre l'Allemagne en demi-finale où Battiston se fait choper par le gardien de but. Et de là commence toute cette histoire, toute cette épopée. On a aimé les derniers carrés. Pourquoi ça serait différent pour les femmes? C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, je ne sais pas si vous avez vu le reportage. Il y a eu un super reportage sur l'équipe de l'OL féminine qui s'appelle « Elles ne sont pas là pour danser ». Qui est passé sur une chaîne sportive il n'y a pas longtemps. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'était il y a 2 ans. Elles sont pour la énième fois championnes d'Europe. Juste, on n'a aucun club masculin français qui a été 6, 7 ou 8 fois champion d'Europe. Mm-hmm. Elles sont, je crois, à ce moment-là, pour la 6e fois championne d'Europe. Elles battent le Barça 4-0 ou 4-1. Elles n'ont même pas reçu la félicitation d'un des joueurs de l'équipe masculine de l'OL. Ça vous prouve déjà un petit peu comment, en France, en tant qu'homme, on considère le foot féminin. Je ne fais pas de machisme primaire de base. Hein. C'est un constat que je fais et je rejoins David quand il dit que la fédération a raté le coche, n'a rien fait et que le président, on va le dire, n'a rien fait derrière la Coupe du Monde qui a eu, ou la Coupe d'Europe, je ne sais plus ce que c'était, en 2019. Tout ça pour dire qu'en plus, moi je ne suis pas un grand malade de l'équipe de France féminine, mais je les suis et j'ai constaté que sur ces 5-6 dernières années, elles ont, et en club comme en équipe nationale, elles ont énormément progressé au niveau technique, on le voit dans les entraînements. Elles ont énormément progressé au niveau puissance. Elles sont capables de répéter les efforts. Moi, à l'époque de Bruno Bini en 2007, franchement, elles n'étaient pas capables de répéter des efforts à haute intensité. Maintenant, on les voit. Vous prenez une Cascarino, vous prenez la petite arrière-gauche, j'ai oublié, Karchaoui. Vous prenez même au milieu de terrain, elles ont des joueuses qui sont capables de répéter les efforts. Et pourtant, je suis d'accord avec vos trois intervenants. Il faudra qu'elles aient des titres. Il faudra qu'elles gagnent contre des grandes équipes pour que, éventuellement, la nation s'intéresse à elles. Et c'est malheureux.
Alors Marc, pour apporter de l'eau à ton moulin, c'est 8 Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais section féminine. C'est évidemment un record
en, c'est une belle analyse
en,
de Marc.
En Europe. Oui, ouais. et qui se défend tout à fait. Mais après, on en revient effectivement à ce cliché, j'ai envie de dire, mais qui est, en est-il réellement un, de le manque de culture foot finalement dans notre pays, parce que on a quand même l'impression que c'est un petit peu progressé. Tu rappelais que toutes les rencontres, et même toutes les rencontres de la phase finale à partir depuis les quarts de finale, sont diffusées sur une chaîne gratuite, hein, en prime time. Bon, il y a quand même une exposition. On avance effectivement, mais bon, ça ne suscite pas effectivement l'engouement qui permettrait, encore une fois, selon vous, de booster les résultats. Exactement, on verra les chiffres de l'audience.
Mais quand même aussi, comme le disait David, il faut que la fédération se bouge aussi. Il n'y a pas que les chaînes qui diffusent et il n'y a pas que les spectateurs qui regardent, tu vois.
Effectivement, mais bon, on va pas non plus, on le disait, rémunérer les gens pour qu'ils aillent en Angleterre, hein, nos amis.
Non, mais si tu proposes.
Nos amis hollandais, effectivement, la fédération hollandaise organise un petit peu les choses, il y a quand même cette volonté d'aller faire la fête autour de son équipe nationale, d'aller mettre un petit peu d'orange dans les rues. Les Bleus face aux Oranges, c'est ce soir, 21h, à Rotherham. Dernier quart de finale de l'Euro féminin de football. Les Bleus qui n'ont jamais dépassé les quarts de finale, ce plafond de verre qu'il faut enfin crever, réussir à percer et pourquoi pas du coup susciter un intérêt national, un engouement national, une vague bleu-blanc-rouge, pourquoi pas tout le monde sur les champs. Effectivement, en tout cas vous retrouverez Anthony Reich et Jeannot Rességuier au commentaire de cette rencontre à suivre en direct en intégralité. RMC qui met les petits plats dans les grands pour cette équipe de France. Les grandes du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie, les GG, Marie, Marion, David, vous avez été superbes. Je remercie Pierre Amiche, évidemment, à la production. Effectivement, on se retrouve évidemment demain. On embrasse Jean-Christophe Drouet, qui coule des jours heureux et du bon temps en vacances. Notre JC, repose-toi bien et reviens-nous en forme.